France Inter.
Et il est... Quelle heure il est? Il est 18h22, c'est parti.
It's morning edition from NPR News.
Merci, fils, and in the house.
Halliam, Radio Rosana, Piparis.
Produce gente en la radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Est.
De la violence politique aux États-Unis. On ne découvre pas que les États-Unis sont violents, que la société est brutale, mais l'assassinat de Charlie Kirk n'est pas un pic de violence, c'est une suite d'actions violentes et meurtrières tournées vers les élus et vers les institutions. Mais dans quel précipice ce pays, les États-Unis, est-il en train de tomber? On parle beaucoup de censure, nous, en France, de motion de censure. Et si Ursula von der Leyen, à Bruxelles, faisait elle aussi les frais d'une motion de censure? On le verra avec Louise Baudet, ce sera le monde à l'endroit. Le reportage est en Hongrie avec une jeunesse très en colère qui crie sans s'embarrasser de politesse.
Nous, on a grandi sous ce régime et c'est nous qui en avons le plus marre. Et on va crier le plus fort possible. Salaud de Fidesz.
Un reportage signé Florence Labruyère que vous découvrirez vers 18h40. Sous les radars, Guillaume Audat a trouvé le robot Persévérance qui lui-même a trouvé sur Mars une preuve de vie, c'est peut-être un tibia, allez savoir. Et dans la tech la première, Stéphane Jourdain vous expliquera que trop scroller sur les réseaux sociaux fait chuter le PIB. Le monde est vaste, les amis, et on n'a qu'une heure, allons-y.
Please rise for a moment of prayer for Charlie Kirk and his family. Wait a minute. The house will be in order.
Alors, cette scène s'est déroulée à la Chambre des représentants. C'est cet après-midi, ils cherchent à faire une minute de silence pour Charlie Kirk. Et puis ça se passe pas bien, des cris, des rejets de fautes aussi. Tout ça en appuyant sur la polarisation de ce pays. Bonsoir Thomas Negaroff.
Bonsoir Fabienne.
Vous êtes historien, spécialiste des États-Unis. Bien sûr, vous animez aussi le grand face-à-face sur Inter. Je le disais tout à l'heure, on va pas faire semblant de découvrir la violence politique dans ce pays parce qu'elle existe depuis très longtemps. Cette société, elle est brutale. On va faire de l'histoire ensemble. Mais si on fait quand même un compte en revenant simplement quelques mois en arrière, juste quelques mois, on a une élue du Minnesota avec son mari qui a été assassinée, c'était des démocrates. On a la maison du gouverneur démocrate de Pennsylvanie qui a été incendiée. Le mari de Nancy Pelosi, qui est l'ancienne speaker à la chambre démocrate, qui a été victime d'une attaque au couteau de marteau quand même. On a deux tentatives d'assassinat contre Donald Trump pendant la campagne. Et ça, c'est pas exhaustif. Alors, on sait bien qu'il y a une grosse polarisation, Thomas Negaroff, mais enfin, qu'est-ce qui se passe?
Et des facteurs très différents, ouais, dans ce que vous avez dit, parce que la gouverneure du Michigan, il y avait un complot pour l'enlever et pour l'assassiner, faire un procès en haute trahison, c'était pour le Covid, parce qu'elle avait trop enfermé les gens. Dans le Minnesota, les élus, c'était pour des questions d'avortement. Trump, c'était pour l'ensemble de son œuvre. Mais il y a effectivement, on navigue, mais la réponse est la même partout, c'est une hyper-violence. Bah, ce qui se passe, c'est une société dans laquelle, d'abord, les armes à feu sont ultra disponibles, donc il y a quand même un moyen qui est possible. Et puis, parce que c'est une société qui est, on l'a dit beaucoup ensemble, mais tellement polarisé qu'il y a un moment donné où la rhétorique produit ça. Et dans l'extrait que vous avez passé de la Chambre des représentants dans l'après-midi, il y a une femme démocrate qui dit « Tout ça, c'est de la faute de la rhétorique des gens comme Charlie Kirk », ce qui est particulier quand même, considérer qu'il est victime de sa propre rhétorique. Mais, et Trump dit la même chose, c'est la rhétorique des autres qui nous traitent de nazis qui a entraîné ça. Comme quoi, tout le monde a conscience que ce sont les mots qui désormais produisent des actes de violence.
C'est les mots, et alors ça nous ramène à une conversation, je pense, qu'on avait déjà eue, vous et moi d'ailleurs, sur le fait que chacun a l'impression d'être celui qui défend le mieux à la fois la démocratie, les institutions et les États-Unis. Chacun dans son camp a une sorte de bonne foi réelle, en fait, d'une certaine façon.
Oui, on l'avait dit au moment de l'élection américaine, on avait dit c'est dangereux pour après l'élection parce que chaque camp considère que la victoire de l'autre, c'est la destruction de l'Amérique. Là, on est même au-delà de ça, en fait. C'est la destruction quasiment de l'identité, des valeurs même. Le virus wokiste, par exemple, défendu par les uns, enfin, dénoncé par les uns. Le virus fasciste, défendu par les autres. Dans ces conditions-là, on a le sentiment que la mort de l'autre n'est que la condition pour obtenir la survie de la nation et de soi-même. C'est terrible.
Il y a un expert américain en préparant cette émission sur lequel je suis tombé, qui est interrogé par le Guardian et qui a cette phrase qui dit « Nous sommes entrés dans une ère de populisme violent ». Populisme, on savait déjà, en fait, on y était depuis Donald Trump, comme s'il y avait une espèce de gradation. En fait, on a d'abord fait rentrer le populisme et maintenant on l'accompagne, on lui met le sac à dos de la violence par-dessus, c'est ça que ça veut dire?
Oui, sans oublier, on va y revenir, que l'histoire de la violence politique aux États-Unis n'est pas née en 2024, en 2025, et n'est pas née non plus avec Donald Trump. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'il y a une couche supplémentaire d'ajouter, avec une forme de justification de la violence. Il y a le procès de Luka Magione qui commence en début de semaine prochaine.
C'est utilisé par Trump d'ailleurs. Luka Magione, c'est celui qui a tué le patron d'une entreprise d'assurance maladie. Voilà. On sait bien que les Américains détestent les patrons d'assurance maladie.
Voilà, mais il a été justifié. Certains ont considéré que, sans romantiser, mais quand même, en plus c'est un beau mec, donc il y avait toute une espèce d'esthétique autour de la mort, d'un meurtre, qu'on retrouve un peu aujourd'hui. Et ça, je trouve, qui est le plus dangereux aujourd'hui aux États-Unis, c'est qu'on a des gens à gauche qui applaudissent la mort d'un homme, on a des gens à droite qui applaudissent la mort d'un homme. Et dans ces conditions, c'est pas la majorité des Américains, mais on sent qu'il y a une justification de la violence, ou en tout cas une euphémisation de la violence, parce que on est presque dans un temps de Machiavel, quoi. La fin justifie les moyens. La fin, c'est la sauvegarde de l'humanité, c'est la sauvegarde de la vie pour Luka Magione, parce que sa mère était morte à cause de frais qui s'envolaient. Mmh. On comprend ce que ça veut dire, ce que ça peut vouloir dire, mais on voit aussi la mécanique très dangereuse qui consiste à justifier la mort d'un homme.
La dernière fois, mais vous m'arrêterez si je me trompe, Thomas, dans l'histoire récente, en tout cas, qu'on a eu une liste de morts politiques quasiment au même moment, en fait. C'est 68, Bobby Kennedy, Martin Luther King, Malcolm X, et puis les émeutes à Chicago, et puis les manifs sur les campus, il y a des morts sur les campus, on est dans cette période de la guerre du Vietnam. Le sentiment qu'on... Mais on se souvient bien que 68 était un moment pivot, en fait. Ouais. Donc on a un peu l'impression que ces moments où la violence monte sont aussi des moments pivots de la société américaine. Sommes-nous dans un moment pivot de la société américaine en ce moment, qui explique aussi pourquoi il y a autant de morts ?
Le parallèle entre les années 60 et aujourd'hui, on pourrait même commencer en 63 avec la mort de Kennedy, le président quand même, c'est que dans les deux cas, on est dans un moment de polarisation et de guerre culturelle majeure qui produit une vraie guerre, en tout cas la mort d'hommes. Il y a une différence majeure. Et après, quand même, je répondrai à la question sur la période qu'on vit, est-ce qu'elles sont proches en termes de transition et de moments comme ça. La différence, c'est la réaction du pouvoir. Dans les années 60, et je réécoutais le discours de Lyndon Johnson, président américain, au moment de la mort de Bobby Kennedy. Il n'y a pas d'appel à la vengeance. Il y a l'appel à... Il dit en plus le mot « healing ». Il faut cicatriser la nation. L'idée d'un président, et le président, il est là quand même pour garantir l'unité de la nation autour de valeurs communes et partagées. Vous avez écouté le discours de Donald Trump. Ça change tout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire « Ah bah c'est la même chose, il y a des meurtres ». Ce qui compte, c'est ce qu'on fait de ces meurtres. Et pour le coup, ce que fait Donald Trump de ce meurtre est inquiétant pour la suite de ce qui peut se passer en Amérique, parce qu'il souffle sur des braises déjà très, 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 très brûlantes, de la division, de la polarisation. Il dit « On va prendre des mesures qu'on n'a jamais prises jusqu'alors ». Enfin, c'est des choses qui sont...
De répression contre les gauchistes. Enfin, c'est pas un mot à lui, mais enfin, c'est dans son camp.
Oui, la gauche tue, comme dit Elon Musk.
La gauche tue.
Ouais, la gauche tue. Ouais. On est quand même sur un vocabulaire très violent et qui appelle à la vengeance. Et quand on est dans la tête des Trumpistes, on est dans ce vocabulaire-là du ressentiment, de la vengeance. Et ce qui est passionnant avec Trump, c'est dans l'inversion totale en permanence des choses. C'est-à-dire qu'on considérait, et les chiffres le disent, c'est pas moi qui le dis, les services de renseignement considèrent que la principale violence, menace en termes de terrorisme intérieur, c'est pas l'extrême gauche, c'est l'extrême droite. Mais cet événement-là permet de retourner, de faire de la rhétorique et de retourner complètement les choses.
Avant de savoir d'ailleurs qui est le coupable, par ailleurs, hein, parce qu'en général, et c'était même le cas d'ailleurs dans les tentatives d'assassinat contre lui, toujours une espèce de mélange de radicalisation à la maladie mentale aussi, tous les profils en gros ressemblent à ça. Il y a quand même une chose, vous avez cité 68, j'ai envie de citer 2000 moi. Il y a quand même un moment dans l'histoire américaine à chaque fois où on a essayé effectivement de heal, comme vous dites, de se soigner. Après l'élection calamiteuse Bush-Gore, à un moment c'est Gore qui siffle la fin de la récré et qui dit c'est bon. On arrête pour que la démocratie soit intacte et que le processus électoral soit celui qui a le dernier mot. Aujourd'hui, c'est plus vrai.
Non.
Est-ce que c'est pas ça aussi ? À partir du moment où l'élection ne peut plus être le juge de paix, alors on prend son flingue et on tire, quoi, d'un côté comme de l'autre.
Oui, et le Capitole, le 6 janvier 2021, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc oui, il y a une démocratie qui est malade, qui est moribonde, qui est morte vivante, j'ai l'impression, même si on sent quand même que les grands élus démocrates font le travail. J'ai entendu Kamala Harris, j'ai entendu Barack Obama. Barack Obama, qui est le président qui avait été élu en 2008 sur la question précisément de l'empathie. Et là, clairement, l'empathie a disparu des États-Unis. C'est impressionnant à ce point-là. Et puis, on est le 11 septembre quand même. Parce qu'il ne faut pas non plus fantasmer les périodes passées. Qu'est-ce qui s'est passé après le 11 septembre ? Il y a eu une instrumentalisation par le pouvoir des attentats terribles qui ont touché l'Amérique, avec des conséquences liberticides pour les Américains. hein, tous les juristes américains le savent, le Patriot Act a été liberticide et prolongé très longtemps, au-delà même du cercle des menaces du 11 septembre. Beaucoup considèrent et craignent que Donald Trump se saisisse de ce moment qui est dramatique, de la mort d'un homme, et on ne peut que la condamner, mais pour en tirer un avantage politique vers encore plus d'autoritarisme. Quand on l'entend, et quand on entend ce qu'il est en train de dire, moi je me dis qu'il peut aussi y avoir ce genre de 11 septembre à nouveau qui apparaissent, à savoir un drame réel, mais qui est ensuite utilisé politiquement par le pouvoir en place pour conduire des politiques qui peuvent être liberticides, ou en tout cas contraires à l'idée qu'on peut se faire de l'état de droit aux États-Unis.
Il y a une autre phrase en vous écoutant qui me vient à l'esprit, c'est celle de Peter Thiel qu'on a beaucoup répétée ces derniers temps, et qui disait, il l'a écrit, je crois que la démocratie et la liberté ne sont pas compatibles. Oui. Et entre les deux, ce qu'il choisit de sacrifier, c'est bien la démocratie. Oui. Et au fond, de la même manière, et avec une envie d'un pouvoir qui serait plus autoritaire, qui serait plus fort et qui mènerait les autres à la baguette. Donc on y est en fait.
On y est, et quand on écoute bien Donald Trump, il faut vraiment écouter. Donald Trump, il faut le lire et l'écouter. On a appris qu'il fallait le prendre au sérieux et littéralement. Il ne parle que de free speech. L'idée, c'est qu'on a assassiné, non pas un homme, on a assassiné une idée.
Et c'est aussi l'idée... ce que dit le Washington Post. Hein. Oui. C'est intéressant. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est le Post qui le dit ou si c'est Jeff Bezos qui le dit, parce que c'est bien compliqué de comprendre
c'est...
ça.
C'est vrai.
Mais c'est aussi c'est le titre de l'édito du Washington Post.
Mais de fait, Charlie Kirk allait parler à tout le monde. Oui. De fait, il disait « prove me wrong », dites-moi si j'ai tort. Mmh. Il voulait parler aux gens. Et d'ailleurs, c'est en ça qu'il était atypique, si on a dit un mot sur lui. C'est que les podcasteurs restaient planqués chez eux. Lui, il allait dans l'arène, sur les campus, c'était de la provoque à 1000%, et il prenait des risques fous, et le résultat, on l'a vu. Mais effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de la liberté d'expression, même si, attention, la liberté d'expression chez eux et chez nous n'est pas la même, les propos de Kirk, parce qu'il faut quand même aussi dire de quoi il parlait. Des femmes à la maison, des propos islamophobes d'une violence terrible, on était quand même dans un discours, et puis, vous savez...
Oui, contre l'avortement, contre le mariage gay,
et puis,
etc.
Et puis son logo, qui est un petit éclair avec le drapeau américain qui s'unit par un éclair rouge, c'est le même que celui de Oswald Mosley, qui était le leader des fascistes anglais dans les années 30, qui avait exactement le même logo, avec juste le drapeau anglais à la place du drapeau américain. Il y a des réminiscences historiques que je trouve intéressantes et qu'il ne faut pas nier malgré ce qui s'est passé.
Je suis en train, mais alors je vais mettre un gros point d'interrogation parce que je suis en train de regarder la photo en fait, puisque le FBI a sorti la photo et la description que vous me faites de son logo me semble assez similaire. Ça va être intéressant quand même.
Oui, alors après,
on a l'impression de voir une espèce de drapeau américain avec
après, un logo dessus. Ça peut être aussi une stratégie du type pour rentrer sur le campus tranquillement.
Oui, exactement, absolument.
D'ailleurs, tout le monde a expliqué qu'il y avait assez peu de protection. Il y a une question de sécurité qui va naître, comme d'ailleurs quand Trump s'était fait tirer dessus. Même si là, le tireur est bien plus précis que celui de Trump. Il était à près de 200 mètres quand même quand il a tiré.
Et en même temps, c'est aussi dans les journaux américains. On dira évidemment qu'il y a besoin de sécurité à l'intérieur des campus, etc. Mais pourquoi est-ce qu'on aurait pu, comment est-ce qu'on aurait pu imaginer qu'un type avec un fusil à lunettes planqué sur un toit?
C'est la vérité, c'est la réalité de l'Amérique d'aujourd'hui.
Exactement.
Il faut la regarder en face et s'inquiéter peut-être aussi de ce que peut devenir l'ensemble de nos démocraties libérales.
Thomas Nagerhoff, merci pour cette conclusion encourageante. Merci beaucoup. Merci de votre passage dans Un jour dans le monde. La suite, c'est Louise Beauté qui remet le monde à l'endroit. Louise.
Retour en Europe, on prend des nouvelles de VDL. Ursula von der Leyen, patronne de la Commission européenne. Deux motions de censure contre elle. Une première.
Et c'est juste après ça. Trouble for playing with me. Maybe I'm a bad man. Jayar, un londonien d'origine nigériane, Sweet Danger, est dans la playlist de France Inter. Louise Baudet et le monde à l'endroit.
Fabienne Saintès. Le 18-20.
Louise, la bulle européenne est en ébullition. Une fronde inédite se lève contre la patronne de la Commission.
Oui, deux motions de censure déposées aujourd'hui contre Ursula von der Leyen, du jamais vu au Parlement européen. Et c'est un peu de la culture française qui s'exporte. Les motions de censure, ça nous connaît à Paris. Et celles déposées à Strasbourg le sont par des groupes sous forte influence française. Groupe des patriotes à l'extrême droite, présidé par Jordan Bardella. Et groupe de la gauche radicale, co-présidé par l'insoumise Manon Aubry. Aux deux extrêmes de l'hémicycle européen, le même reproche, l'accord commercial avec les pays latino-américains du Mercosur, dealé par la Commission, et l'accord sur les droits de douane, scellé fin juillet par Ursula von der Leyen, sur le terrain de golf écossais de Donald Trump. Vassalisation humiliante, dénonce la gauche radicale, qui accuse par ailleurs l'exécutif européen de complicité de génocide à Gaza. Hier, Ursula von der Leyen a bien haussé le ton contre Israël, sanctions contre les ministres extrémistes, suspension partielle de l'accord d'association UE-Israël, des demi-mesures beaucoup trop tardives aux yeux de la gauche radicale.
Alors ces motions de censure, Louise, elles n'ont aucune chance d'être adoptées, on est d'accord.
Oui, étant donné que la gauche radicale et l'extrême droite n'uniront pas leur voix début octobre au moment du vote, pour autant, Ursula von der Leyen n'est pas sortie d'affaire, car son problème, c'est sa majorité. Bien difficile d'en tenir tous les bouts à la fois. La patronne de la Commission a conservé son poste en juin de l'année dernière grâce aux conservateurs, sa famille d'origine, mais aussi grâce aux sociaux-démocrates et aux centristes. Et ceux-là sont très critiques. Ils se sentent ignorés au bénéfice de la droite qui mène la danse et qui multiplie les alliances de circonstances avec l'extrême droite contre le pacte vert ou pour durcir les lois migratoires. Et c'est à cette aile de centre-gauche que la patronne de la Commission a voulu donner des gages hier lors de son discours annuel sur l'état de l'Union. Pauvreté, logement, droits des travailleurs, objectifs climatiques au menu, consciente que c'est de ce côté que tangue sa majorité, mais tenue qu'elle est par les conservateurs dont le soutien est pour elle essentiel dans un hémicycle plus fragmenté que jamais.
Et ce qui n'arrange rien, c'est la pratique du pouvoir de la patronne de la Commission.
Oui, sa verticalité, son autoritarisme, dénoncé surtout depuis qu'elle a entamé son second mandat. La présidente prend beaucoup de place à Bruxelles, elle centralise toutes les décisions, elle se réserve toutes les annonces, aux dépens de ses commissaires, qui connaît par ailleurs, par exemple, Andrius Kubilius, le commissaire européen à la Défense, poste pourtant créé par von der Leyen l'an dernier. Face aux menaces géopolitiques et économiques, face au réveil des empires, la présidente de la Commission veut incarner un leadership européen aux côtés des chefs d'État et en marchant parfois sur leur plate-bande. Elle y parvient d'ailleurs. Donald Trump a enfin cessé de l'ignorer cet été, mais en s'imposant, eh bien, Ursula von der Leyen s'expose, patronne autoproclamée d'une Europe coincée entre l'expansionnisme russe, la suprématie commerciale chinoise et la fuite en avant de l'Amérique trumpiste. Elle incarne avec force les faiblesses européennes, un paradoxe qui épuise n'importe quel capital politique.
Louise Baudet, merci beaucoup et à demain. Le reportage d'un jour dans le monde est en Hongrie. Ce soir, ce qu'on entend là, c'est la foule qui crie « Salaud de Fidesz !» Voilà, comme ça au moins c'est clair, le Fidesz c'est le parti du Premier ministre Viktor Orban. Ça fait des années que ce slogan résonne dans les manifestations de l'opposition contre la dérive autoritaire d'Orban. On en a beaucoup parlé ici, mais aujourd'hui, ces mots On les entend dans les concerts, on les entend dans les festivals, hurlés par une foule de jeunes entre deux performances. Alors comment peut-on l'interpréter ? Est-ce que c'est un cri de rage d'une jeunesse qui se défoule ? Est-ce que c'est le signe d'une vraie mobilisation à 6 mois des prochaines élections ? Le reste, c'est Florence Labruyère qui raconte.
Nous, on a grandi sous ce régime et c'est nous qui en avons le plus marre. Et on va crier le plus fort possible. Salope Fidesz.
C'est devenu un rituel. Pas une semaine sans qu'un concert soit ponctué par le slogan « Salope Fidesz » scandé par les lycéens et les étudiants. Pour Armin, 24 ans, étudiant en économie, c'est une façon d'évacuer sa frustration.
Tout est de plus en plus cher. Il y a une énorme inflation. Et puis, la politique du gouvernement contre les personnes LGBTQIA+, et sa politique étrangère, c'est terrible. Notre gouvernement est pro-russe, et il y a énormément de gens qui ne sont pas d'accord avec ça.
Si les jeunes sont moins indifférents à la politique, c'est parce que de plus en plus d'artistes critiquent ouvertement Viktor Orban. Dans son dernier tube, le chanteur pop Maïka fait une satire féroce du régime. Il décrit un pays imaginaire, le Bingistan, sur lequel règne un autocrate corrompu. « Je survis à tout, car les lois sont écrites pour moi », dit le refrain. Il y a quelques jours, Maïka était en concert à Szeged, au sud de la Hongrie. Et le concert s'est terminé, comme d'habitude, par le slogan « Salope Fidesz ». Pour Kata, une jeune styliste aux longs cheveux bruns, il ne s'agit pas de se défouler en lançant des injures.
Il ne faut pas voir ça comme un slogan primitif, dans le style des hooligans qui hurlent pendant les matchs de foot. Non, c'est un mot de ralliement, un sentiment de rébellion.
Viktor Orban est aujourd'hui un dirigeant d'extrême droite, grand admirateur de la Russie de Poutine. Ailleurs en Europe, l'extrême droite séduit une bonne partie de la jeunesse. Mais pas en Hongrie, observe le politologue Matthias Bodi.
Le Pen, l'AFD en Allemagne, Vox en Espagne, tous ces partis sont très populaires auprès des jeunes. Mais ils sont tous dans l'opposition. Orban, ça fait bientôt 16 ans qu'il est au pouvoir. Lui et le Fidesz se posent en mouvement anti-establishment, alors que ce sont eux, l'élite économique et politique du pays.
Les élections législatives sont dans 6 mois. Armin, l'étudiant en économie, a peu d'espoir que la situation change. Il pense quitter la Hongrie.
Ça va être difficile de battre le parti au pouvoir, car il y a encore beaucoup d'électeurs qui ne voient pas la réalité. Ils pensent qu'ils vivent mieux maintenant que pendant la période communiste, et ils ont peur du changement.
Kata, elle, croit au changement. La jeune styliste milite activement pour le nouveau parti d'opposition TISA, qui est en tête dans les sondages.
C'est notre dernière chance. S'il n'y a pas un changement radical en 2026, si le parti TISA ne gagne pas les élections, alors ce pays va devenir une sorte de Biélorussie.
D'après les sondages, seuls 15% des moins de 30 ans voteraient pour le parti de Viktor Orban. 56% mettraient un bulletin dans l'urne pour l'opposition.
Florence Labruyère pour le reportage, merci beaucoup et à très vite. La suite, c'est ce que Guillaume Audat a trouvé en soulevant le tapis pour regarder sous les radars.
Une révolution de palais à Londres, la National Gallery se met à regarder du côté de l'art contemporain.
Aïe, shocking. Quelle horreur, Stéphane Jourdain et la tech la première, Stéphane.
On parle du temps que vous perdez à regarder au travail des vidéos idiotes sur votre smartphone, étude très sérieuse de la direction du Trésor.
Allez, nous voilà bien, à tout de suite. On fait d'abord un saut en arrière dans le temps avec les Kinks, A Well Respected Man, ça date de 65. Et ça vient du Swinging London.
'Cause he gets up in the morning, then he goes to work at 9, then he comes back home at 5:30, gets the same train every time. 'Cause his world is built on punctuality, it never fails. And he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy. His body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. And his mother goes to meetings while his father pulls a maid, and she stirs the tea with councillors while discussing foreign trade. And she passes looks as well as bills, 'Cause he's better than the rest, and his own sweat smells the best, and he hopes to grab his father's boot when fate would pass his on. 'Cause he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so. And he plays his flock to Charles, and he goes to the regatta. He adores the girl next door, 'cause he's dying to get at her. But his mother knows the best about the matter of all the snakes, 'cause he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively.
L'homme très très respecté des Kings sur France Inter. Il est temps de plonger sous les radars et d'y dénicher les pépites de l'actualité internationale avec Guillaume Audat. Depuis 61 ans, l'État m'a fait vivre comme une criminelle. Cette femme qu'on entend à 80 ans, Guillaume, et son honneur vient tout juste d'être lavé par la justice sud-coréenne.
Voilà, et lorsqu'elle sort de la salle d'audience, Choi Mal-ja, ce sont ses noms et prénoms, elle paraît presque intimidée au moment de livrer sa première réaction. Cette femme menue, grisonnante, elle a en effet 80 ans, intimidée alors qu'elle a remporté un combat homérique contre la machine judiciaire de son pays. Je rembobine, on est en 1965, Choi Mal-ja n'a pas encore 20 ans, un individu lui saute dessus, glisse sa langue à l'intérieur de sa bouche qu'elle finit par arracher de rage avec ses dents pour se libérer de son emprise. Coupable de coups et blessures aggravées, sentence à l'époque d'un juge aveuglé, elle prend 10 mois avec sursis. Son agresseur n'a même pas été poursuivi. Ce n'est donc pas seulement la justice qui l'a condamné cette femme, c'est tout un système patriarcal qui, 61 ans plus tard, est ébranlé. Choi Mal-ja est innocente, c'est l'épilogue magnifique de ce combat d'une vie, celui d'une femme qui porte désormais le visage de toutes les femmes en Corée du Sud.
Listen, we can't find another explanation. This very well could be the clearest sign of life that we've ever found.
Annonce retentissante hier de la NASA, des traces de vie auraient été trouvées sur la planète rouge.
Oui, des traces de vie.
Tout à l'heure, j'ai dit que c'était un tibia.
Ben,
paraît que non.
J'allais vous le dire, je vous rassure, il n'y a pas de petits bonshommes qui en ce moment gambadent sur Mars et qui laissent traîner leur tibia. Mais des traces de vie passées. Donc on parle d'environ 3,5 milliards d'années. Hein. À cette époque, l'eau était abondante sur la planète rouge. Il y avait des océans, il y avait des lacs. Et dans l'un de ceux-ci, qui a disparu depuis, le robot Persévérance a mis la pince, si je puis dire, sur un morceau de roche extrêmement intriguant. Un échantillon qui contient des minéraux de la vivianite, de la grégite, et sur lequel on a trouvé des textures inhabituelles, des taches sombres, des anneaux, en plus de composants contenant du carbone. Chez les scientifiques, on appelle ça des biosignatures. Mmh. Chez nous, dans le langage courant, on appelle ça des traces de vie. Encore faut-il le prouver définitivement. Et pour le prouver, il faudra rapporter sur Terre cet échantillon. L'agence spatiale américaine aimerait bien monter une mission, mais 225 millions de kilomètres entre Mars et notre planète, c'est pas la porte à côté, puis ça n'est pas donné non plus, environ 5 milliards de dollars. Pour le moment, l'administration Trump veut suspendre ses crédits, mais il pourrait être finalement voté parce que la découverte est potentiellement vertigineuse. Et puis en plus, pour Trump, ça ferait de belles images à la télé.
How do you actually look at paintings? Yes, with your eyes, Ed. But where do you start?
Alors c'est vrai ça, comment est-ce qu'on regarde une peinture? Grande question posée au Royaume-Uni par la prestigieuse National Gallery.
Oui, question d'autant plus pertinente que l'institution phare de la peinture classique à Londres est sur le point d'élargir sa palette. Elle vient de faire sauter un verrou et même presque un tabou, puisque dans le cadre de son agrandissement prochain, la construction d'une nouvelle aile, ce musée inauguré en 1824 s'offre le droit, ladies and gentlemen, d'acquérir et de montrer à ses visiteurs, visiteuses des œuvres réalisées au-delà du strict 19e siècle, en clair de la peinture contemporaine du 20e et du 21e, de quoi concurrencer toujours à Londres la Modern Tate. Shocking, le monde de l'art britannique est en émoi parce que, disent les contempteurs de ce projet, ils disent que sous les dehors de la compétition, on est en train de dévorer la tradition.
Eh bien, c'est bien dit. Merci beaucoup, Guillaume Audat.
C'est triste, Fabien.
Bah, écoutez,
ou pas,
voir.
Pas du tout.
Ou pas, on a envie de dire. Voilà. Peut-être qu'ils vont trouver un tibia à la...
l'exposé. Et on ira la
mirer. Et l'exposé. Allez, le jeudi, c'est la chronique numérique et la chronique d'IA aussi qui rend l'avenir très dystopique. Stéphane Jourdain.
France Inter. Le 18 juin.
Et donc cette semaine, vous avez trouvé, Stéphane, une solution pour régler le problème de la dette de la France.
Exactement.
Une solution qui ne coûte rien. Il faut couper les réseaux sociaux.
Et oui, c'est l'histoire d'un manque à gagner, un gros manque à gagner. La Direction Générale du Trésor s'est amusée à calculer le coût pour notre économie des effets néfastes des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ce que l'auteur de l'étude, l'économiste Solal Chardon-Boucaud, appelle l'économie de l'attention.
D'un côté, les entreprises de l'économie de l'attention vont générer de l'activité économique, parce qu'elles font du chiffre d'affaires, parce qu'elles génèrent des ventes via la pub en ligne, mais que de l'autre, elles ont aussi de gros effets indésirables pour la société. Puisqu'on observe, 1, une forte diminution des capacités cognitives, 2, une dégradation de la santé mentale, et 3, une perte de temps productif. Au total, à terme, à l'horizon 2060, on pourrait avoir une perte d'activité économique qui serait comprise entre 2 à 3 points de PIB, entre 60 et 90 milliards d'euros actuels, à peu près.
Entre 60 et 90 milliards d'euros par an en plus, à titre de comparaison, supprimer 2 jours fériés, c'est 3 milliards d'euros par an.
Alors attendez, il faut nous expliquer comment on arrive à ce chiffre spectaculaire.
Alors tout simplement en additionnant effets négatifs immédiats et à long terme. Immédiat d'abord, quand vous regardez des vidéos de chats qui ouvrent des poignées de porte, vous n'êtes pas en train de travailler. En langage trésor, ça s'appelle la perte de temps productif.
On a des études récentes qui montrent que les salariés pourraient passer entre 20 minutes et 2h30 de leur journée de travail, donc par jour, à consulter leur smartphone pour des raisons qui ne sont pas liées à l'activité professionnelle. Et on a calculé au trésor que ça coûte à peu près aujourd'hui 0,4 points de PIB, ce qui fait à peu près 10 milliards d'euros.
10 milliards d'euros de perdus, ça c'est pour le temps passé à scroller sans produire, auquel il faut ajouter les effets psychologiques catastrophiques de cette exposition aux écrans.
On a de nombreuses études médicales qui montrent qu'une surexposition aux écrans et une forte utilisation des réseaux, ça va entraîner une plus forte prévalence de troubles psychologiques, type dépression, anxiété, stress chronique. Et si on regarde l'ensemble des coûts induits par l'augmentation de ces troubles, les coûts directs, donc tout ce qui est soins médicaux, et les coûts indirects, absentéisme au travail, retraite précoce, on arrive à un total qui est d'environ 0,2 points de PIB par an, à peu près 5 milliards d'euros.
Hop, 5 milliards d'euros, vous tenez les calculs Fabienne, on est à 15 milliards de manque à gagner.
Hop, ok, donc ça c'est pour les coûts immédiats.
Mais le plus intéressant, ce sont les coûts à long terme.
Le plus gros effet, c'est celui qui est lié à la dégradation des capacités cognitives des enfants. On a en effet beaucoup d'études médicales qui montrent qu'une forte exposition aux écrans et aux réseaux sociaux, ça a un impact très fort sur les capacités d'attention, sur la mémoire, sur les compétences langagières des enfants. Et ça se traduit par une baisse des performances scolaires, ce qui va à terme aussi entraîner une baisse de la productivité. Cet impact-là, pour l'observer pleinement, il faudra attendre que tous les enfants concernés soient entrés sur le marché du travail. Ça pourrait représenter entre 1,4 et 2,3 points de PIB à l'horizon 2060.
Environ 60 milliards d'euros de manque à gagner en plus à cause de la dégradation des capacités cognitives des enfants. Effet pointé par la commission d'enquête sur TikTok qui souhaite depuis ce matin interdire TikTok aux moins de 15 ans. Pour rappel, les 11-14 ans en France passe près de 2 heures sur les réseaux sociaux et les messageries par jour, une bonne partie sur TikTok.
Et ce sera bien sûr l'un des enjeux du téléphone sonné de notre discussion tout à l'heure à partir de 19h20. Stéphane, au-delà de cette limitation d'âge, est-ce qu'il y a d'autres mesures qui peuvent limiter l'effet addictif des réseaux sociaux?
Oui, des mesures spécialement conçues pour réduire la captation de l'attention.
Au niveau européen, on a notamment un règlement qui va permettre d'encadrer les fonctionnalités les plus addictives des réseaux sociaux. Par exemple, en interdisant le scroll infini pour les mineurs. Ça veut dire qu'à terme, un utilisateur mineur devra cliquer pour continuer à faire défiler du contenu sur les réseaux.
Pour la docteure en sciences de la communication Virginie Sassoon, ces mesures d'encadrement sont urgentes pour limiter les effets addictifs tellement puissants des algorithmes. Avec François Saltiel, elle vient de publier « Faire la paix avec nos écrans ».
C'est quasiment impossible d'échapper à la puissance de ces systèmes de captation de l'attention. Et on se rend compte aujourd'hui que ça abîme notre attention, notre concentration et notre capacité à être présents les uns aux autres et aussi à soi-même. Et que finalement, notre attention, c'est un peu comme une île au trésor qui est convoitée par ces géants de la tech et donc il nous faut la préserver. Aujourd'hui, il est temps d'agir, il est temps de réagir à l'échelle individuelle mais aussi à l'échelle citoyenne.
En attendant, Virginie Sassoon suggère plusieurs mesures immédiates pour limiter votre addiction aux écrans.
Déjà, être assez critique, dans une forme d'introspection aussi vis-à-vis de nos pratiques, consulter son temps d'écran, par exemple. Parfois, on est assez surpris du temps d'écran, tout simplement, qu'on passe. On est obsédé par les temps d'écran de nos adolescents ou de nos enfants, mais quand on consulte les siens, ça peut participer à une prise de conscience et pas hésiter aussi, même en tant qu'adulte, à se mettre un contrôle parental, de passer l'écran noir et blanc, de couper nos notifications parce que c'est extrêmement difficile de résister à cette tentation.
Voilà, j'en prends bonne note. J'étais justement en train de scroller au lieu de vous écouter. Un grand...
Je remarque ça.
Un grand j'ai absent, Stéphane, dans ce rapport, c'est l'IA.
Oui, les IA génératives, pas encore considérées comme des plateformes addictives. Je vous disais pourtant la semaine dernière à quel point elles sont conçues pour alimenter les discussions sans fin, exactement comme le scroll infini des réseaux sociaux. Et justement, écoutez cet échange dans une vidéo virale. Deux IA se parlent l'une à l'autre via deux téléphones portables et aucune ne veut terminer la discussion.
Take care and good luck with your chat.
Thanks a bunch. I'll catch you later and let you know how everything turns out. Take care.
Sounds good. Talk to you later. Take care.
You too. Have a great one and I'll be here whenever you need me.
Thanks. Looking forward to it. Have a great day. Thank you. Enjoy your day.
Voilà, ça ne s'arrête jamais, ça fait beaucoup rire les deux adolescents britanniques qui ont filmé la vidéo, et c'est véritable, c'est véridique, le doom scrolling, voilà l'ennemi.
Voilà, Stéphane, tu raccroches, non c'est toi. Allez, à jeudi prochain. Le